sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Yasmine Youssi, Corinne Rondeau et Sally Bonne à notre affiche Ligne de vie, une exposition de légende. C'est au Macval. C'est Beyrouth, à l'Institut des cultures d'Islam, Barbara Probst au bal. Et puis il y aura un coup de cœur de Yasmine Youssi qui revient de la Biennale de Venise. Nous ouvrons cette dispute avec la nouvelle exposition du Macval, Ligne de vie. Une exposition de légende, exposition visible jusqu'au 24 août. Le commissaire en est Franck Lamy, assisté de Julien Blanpied et Ninon Duhamel. Si la question de l'identité nourrit bien des œuvres, cette exposition s'y intéresse à sa façon, à travers donc le travail des œuvres de 84 artistes de générations et de pratiques différentes. Il s'agit ici d'interroger la mise en scène et la représentation de soi, un geste que le commissaire considère comme politique pour une identité choisie, non une identité subie. Je reprends ces termes. Tour de table rapide pour connaître votre sentiment sur cette exposition, sentiment que vous développerez. Ensuite, Corinne Rondeau.
Pas facile.
Yasmine Youssi.
Une immense déception.
Ouf, Sally Bonne.
Une exposition dense et complexe, voire compliquée.
L'écouter tous les jours, ce morceau de Taxi Girl. Donc, pourquoi pas ce soir, pour Ligne de vie, chercher le garçon. Ça peut être une des questions qu'on se pose au Macval. Il y en a pas mal d'autres qu'on va se poser ensemble, j'imagine. Corinne Rondeau, juste dans les grandes lignes, le parcours de l'exposition, tel que vous l'avez, vous, éprouvé.
Écoutez, c'est la grande salle d'exposition, donc en fait, on a rêvé. On a une forme d'éclatement qui s'offre tout de suite à nous. Donc, on est un petit peu... l'organisateur de son propre parcours. Donc il y a des black box, des salles noires où il y a de la projection, mais aussi de l'installation. Vous avez des tas de supports qui sont du livre, de la lecture, mais aussi des photographies, de la capture, parce qu'il y a des chaînes YouTube d'artistes qui sont là. Vous avez une sorte de cartographie un peu imaginaire liée à cette recherche de l'identité, dont la question est évidemment de ne pas croire que ce que sont les artistes sont à l'image de leur apparence, mais au contraire dans l'ordre d'une certaine construction. Donc on nous demande aussi, je pense, beaucoup à construire autour de tous ces supports et toutes ces formes qui sont proposées par les artistes, qui vont, je dirais, de la plus drôle à la plus compliquée, de la plus pleine d'apparence et que d'apparence à la plus profonde, même s'il n'y a pas de recherche de volonté, de profondeur, puisqu'on passe justement à cette recherche de la surface, on va dire, puisque c'est aussi quand le sous-titre exposition de légende, c'est aussi une manière d'évacuer ce qu'on appelait les mythologies personnelles il y a quelques années. Et on voit bien que la mythologie incarnait la volonté de la racine, de l'origine, éventuellement, et que là, on veut créer vraiment quelque chose de l'ordre du masque, beaucoup, et d'une construction qui n'appelle pas forcément la subjectivité, mais des conditions même par lesquelles se construirait une identité.
À propos d'identité, Yasmine Youssi, pendant longtemps, votre identité était liée aux fiches cartonnées
oui.
que vous aviez ici oui. dans cette émission. 5 fiches. Et là, non. ce sont des feuilles.
Des
et
feuilles.
J'ai presque envie de souffler, vous savez, comme le grand méchant loup. Qu'est-ce qui se passerait si toutes
non.
ces fiches...
Non.
Non, bon, je vais pas le faire alors, Yasmine. Bon, donc, première fiche, introduction. Stylo
même
vert.
Plus.
Non, il n'y a plus.
Mais comme vous avez changé la manière
de préparer cette émission.
Voilà, donc du coup, je n'écris plus introduction.
Ah, très bien.
Donc, déjà, vous m'avez beaucoup perturbé.
Mais j'espère
mais autant
bien.
Que cette exposition.
C'est le but. Alors, non, vous disiez, blague à part, grande déception tout à l'heure, ça veut dire grande attente alors?
Oui, j'avais une grande attente parce que c'est vrai que toutes les expositions que j'ai vues ces dernières années au Magval m'ont à chaque fois emballée. J'ai toujours aimé cette manière que le Magval a de prendre des thèmes qui parlent à tous, justement, sur l'identité. Je me rappelle plus des titres, mais c'était toujours. J'étais toujours emportée. J'avais toujours le sentiment de découvrir des artistes que je ne connaissais pas. J'aime beaucoup cette manière du Magval de défendre des artistes de la scène française. Voilà. Et là encore, je me précipitais parce que le sujet est absolument passionnant. Cette idée de la mise en scène de soi. Mmh. Et comment les artistes se mettent en récit, ce qu'ils font de cette frontière entre l'art et la vie, comment ils font de leur corps, de leur intimité matière à création, tout ça. Enfin, c'est quand même vraiment des problématiques qui nous touchent tous, qui sont propices à des récits qui peuvent être vraiment passionnants, à toutes sortes de choses. Et puis rien. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Alors, Corinne disait, bon, effectivement, il y a un grand plateau. Il y a normalement 4 thématiques qui sont pas si évidentes que ça.
Pas très lisible.
Donc, oui, c'est la mise en récit de soi, l'infiltration des systèmes, le corps comme objet de l'art, l'autoportrait. Donc là encore, des thématiques passionnantes. Et le problème que j'ai eu, donc ils ont le commissaire de l'exposition a fait le choix de ne pas appeler les grandes stars qui ont l'habitude de traiter ces sujets, je pense pas. Et c'est tout à son honneur parce que justement on se dit on va découvrir de nouveaux artistes. Sophie Calle est traitée sous la forme d'un, enfin apparaît sous la forme d'un livre, ses œuvres. Mmh. On aurait pu penser à Nan Goldin, des gens comme ça, mais c'est très bien qu'on fasse des nouvelles découvertes.
Il y a quand même beaucoup de gens très connus dans cette exposition aussi.
Pas tant que ça. Pas tant que ça.
Là, j'ai la liste sous les yeux, donc je ne vois pas. Si on voit Christian Boltanski, Léna Brotteré, Philippe Kahn, en effet, Claude Kloski.
Ils le sont sous forme de livre.
Joël Hubeau, Journiac. Oui, mais ce n'est pas la question. Ils sont là.
Mais on ne les voit pas. Franchement, là, comme ça, moi, je ne les voyais pas. Il y a des œuvres plus pertinentes. Alors, non seulement j'ai trouvé les œuvres très, très faibles, pour beaucoup. Quand c'est des artistes que j'adore, comme par exemple, pour lesquels j'ai vraiment... qui en général m'emportent, je pense au Palestinien Taïsir Batniji, j'ai peur de mal prononcer son nom...
Ça nous étonnerait de votre part.
Qui a l'habitude de faire...
Par les 17 langues, je le rappelle.
J'ai des parents linguistes.
Ben voilà.
Donc,
les filles de linguistes ne sont pas les plus mal chaussées en termes d'apprentissage des langues. C'est une exception.
Pourquoi Corinne aussi?
Non, mais parce que... par rapport au fils de cordonnier, mais je m'égare un petit peu.
Donc voilà, Taïsir Batniji, il y a des installations qui vraiment vous marquent à jamais. Là, on a une œuvre, c'est il parle à sa mère et puis en fait la communication se bloque, donc l'œuvre c'est les pixels de l'image bloquée. C'est pas très intéressant. Et ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que dans cette exposition, c'est que d'un point de vue plastique, je trouve qu'on va pas très loin. Je trouve que beaucoup d'œuvres sont anecdotiques.
Sally Bone, qu'on a à peine entendu, mais dans ce à peine, il y avait déjà du confus, complexe, compliqué.
Non, complexe et compliqué.
Alors, voilà.
Dense aussi, parce qu'effectivement, j'ai eu la même impression en rentrant que Corinne Rondeau. On ne sait pas par où commencer. Il y a une espèce de profusion d'œuvres, l'espace est surrempli, et on commence, alors du coup, on choisit son camp, hein, soit tout de suite à droite, soit tout de suite à gauche. Pour ma part, c'est tout de suite à droite par une petite vidéo d'Esther Ferrer, et puis on continue, et là, on traverse des espaces, et en fait, j'ai cru comprendre à un moment donné du parcours qu'il y avait une sorte de système qui serait marabout bout de ficelle. C'est-à-dire qu'on démarre sur raconter sa vie, puis en fait ça s'enchaîne. Selon une logique qui est vraiment pas évidente. Et avec des œuvres qui sont effectivement, ce qui pourrait être d'ailleurs intéressant, qui ont une espèce de dimension un peu modeste. C'est-à-dire qu'on a une petite œuvre, pas des œuvres grandiloquentes. Hein, c'est plutôt des, à part quelques pièces, quelques installations un tout petit peu monumentales. Mais sinon, c'est quand même des petites œuvres. Ce qui fait que, comme il y en a beaucoup, parce qu'il y a quand même 80 artistes, Donc on est voilà, on est et elles se superposent les unes à côté des autres. Donc on a cette ce sentiment en permanence d'être convoqué dans cette interrogation post effectivement mythologie personnelle. Moi j'ai quand même senti, et vous avez évoqué l'installation qui est au centre en fait de l'exposition, qui est une espèce de bibliothèque un peu étrange puisqu'on voit pas les livres, on voit simplement des tranches de bois qui tiennent en fait en pince des livres. Ces livres là sont l'espèce de bibliothèque idéale de cette question de l'exposition, le moi comme légende. Et en fait il m'a semblé que, à côté de cette espèce de modestie des artistes ou des œuvres des artistes, et aussi effectivement des artistes qui sont pas forcément extrêmement connus, il y en a quand même, hein, mais qui sont plutôt des jeunes artistes, ça aussi c'est une chose positive. Et en même temps, il y a aussi une espèce de surdocumentation ou de surplomb en fait des références. On est quand même sous la tutelle de Barthes, le personnage, considérer ceci comme étant dit par un personnage de roman, donc il y a cette tutelle comme ça, barthésienne. Il y a aussi la tutelle de Clément Rosset, puisqu'il est convoqué pour la question du moi et de la légende. Moi j'ai entendu, même s'il n'est pas présent ni dans les textes, ni dans les mentions Foucault à la fin de l'ouverture de l'archéologie du savoir, qui dit « ne me demandez pas qui je suis ». Ne me demandez pas de rester le même, etc. Donc on est quand même dans une espèce de surplomb théorique qui, au fond, ne trouve pas de réalité dans les œuvres, en fait. C'est-à-dire que les œuvres racontent des petites choses. Alors, peut-être pour juste une dernière chose, on est quand même, et ça c'est peut-être ce qui est intéressant, on n'est pas dans le petit récit de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'exposition est pas totalement raté, on va dire, c'est qu'on n'est pas dans l'exposition de soi au sens de la petite histoire, mais ou qui serait le geste narcissique, et au contraire, il y a des tentatives d'exposer dans cet éclatement justement la multitude des possibilités d'exposition et de représentation de soi. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante et un petit peu comme Yasmine, j'étais très attentive et très en attente justement de ces questions-là, parce qu'elles me semblent d'abord très prégnantes aussi dans l'actualité. C'est-à-dire que sous les injonctions identitaires, comment on sort de tout ça en fait, et on reste un petit peu sur sa fin malgré l'immensité, l'immensité, j'exagère, mais en tout cas...
La pléthore de propositions. C'est peut-être aussi rencontrer une foule, rentrer dans cette exposition, Corinne Rondeau.
Oui, sans doute. C'était une forêt pour moi. Je suis sortie en me disant, bon, c'est une forêt, je suis pas sûre d'avoir pas raté l'arbre. Enfin non, si, je pense que je me suis arrêtée à un arbre. Heureusement d'ailleurs, ça m'a un peu réconciliée avec l'exposition.
Alors, lequel, tiens?
L'assemblage de cahiers d'agenda de Cécile Paris.
Ah oui.
En fait, c'est un bloc, c'est comme un pavé que vous avez un tabouret, et puis vous tournez les pages, et en fait, cet agenda, il est raturé, pour partie, enfin, beaucoup, où il est recouvert par du blanco ou raturé. Et finalement, c'est là que j'ai rencontré quelque chose, mais qui n'est pas au contraire de ce qu'il y a majoritairement pour moi, c'est-à-dire cette manière dont, en fait, on est dans la multiplicité et dans la dimension moïque, hein, très forte, de beaucoup d'artistes, et dont j'avais l'impression que j'étais...
La définition du mot moïque.
Soi-même, enfin, ils sont en train de projeter sans arrêt, et moi j'avais l'impression d'être le miroir, et j'ai pas du tout envie d'être un miroir, je suis là pour regarder des choses, ou pour avoir du temps pour penser justement une rencontre, et cet assemblage de cahiers, pour moi, a été une rencontre. C'est-à-dire, j'ai tourné des pages pendant 20 minutes, je suis restée une heure et demie, donc j'ai passé 20 minutes avec cette chose-là, qui ne m'a rien donné. Mais à l'intérieur de ce qui ne m'était pas donné, il y avait vraiment la rencontre avec quelqu'un qui n'est personne. Et je dois dire que quand on rencontre des gens, les gens sont d'abord personne. Et j'ai beaucoup aimé cette manière de ne pas être face à quelque chose qui est signé, qui a un masque, qui est exubérant, qui doit absolument affirmer une identité à travers du genre, du queer, etc. Mais au contraire, cette manière de se retrouver à un point de gravité, si vous voulez, par le biais de l'effacement qui était proposé par la rature, cette activité de rature, cette manière de dire, il y a sous la rature, il y a une écriture, et l'écriture, cette rature, c'est l'ailleurs. Et donc moi, j'ai vraiment passé un moment avec quelqu'un quelque chose et quelqu'un aussi, dont on me racontait pas exactement, je fais ceci, je viens de là, etc. Alors, il y a, pour moi, d'un côté, tout ce qui relève de cette multiplicité de masques, mais où il n'y a rien derrière. Et pour le coup, pour moi, c'est la misère de la multiplicité. Et cette manière de planter le clou de l'identité, qui est un mot que j'exècre, depuis très longtemps, parce que ça crée du communautarisme. Et quand je vois trop, je dirais, une sorte d'orientation du queer, ça m'agace. Parce que, à un moment donné, dans l'exposition, j'ai senti la bascule. Or, dans une forêt, vous avez envie d'avoir beaucoup d'essence. Et je l'ai rencontré avec cet assemblage, là, sur une petite table, discrètement, au milieu de rien. D'ailleurs, je suis tombée sur le... Je cherchais l'œuvre à côté, et c'est un autre cartel. J'ai mis, c'est où ce machin? Et c'était juste dans mon dos. Donc voilà, je me suis retournée, comme on se retourne dans la rue sur quelqu'un, sur une silhouette. Et ça, je trouve que là, pour le coup, il se passe un truc sur la... sur comment ça s'appelle déjà? Ligne de vie. Voilà, là, j'ai créé une ligne de vie entre un objet et moi-même, comme spectateur, et non pas de chercher le reflet de l'un dans l'autre pour dire bravo, c'est formidable, vous avez raison. Voilà.
Yasmine aussi, il y a, bon, c'est interloqué, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'émission avec Corinne, je crois. Il faut se réacclimater un petit peu.
Avec cet agenda, j'ai rencontré rien. Avec rien.
Mais c'est pas mal quand même, se dire qu'il y a rien.
Non, non, pour moi, c'était vraiment le degré zéro, là encore. C'était le degré zéro. Et bon, c'est le problème de cette exposition. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup gênée. Et on en parlait beaucoup au journal avec Olivier Sénat. C'est cette déferlante d'œuvres qui sont en fait un dispositif. Et là, il y en a plein. Vous avez par exemple et que ça va pas plus loin que ça, quoi. Ça ne va vraiment pas plus loin que ça. Alors vous avez celui qui veut changer de nom, donc il fait tout un procès pour changer de nom, pour garder le même nom. Alors vous avez les lettres là comme ça qui vous sont présentées sur un mur. Et voilà, vous avez le dispositif et ça fait une œuvre. Non, ça fait pas une œuvre. Ça fait vraiment, ça s'arrête, quoi. Il y a c'est comme on dirait
je ne sais pas à quoi vous pensez, donc.
Quand oui.
Ça vous va bien, Corinne. Je veux dire une chose pareille.
C'est comment on dit au rugby, on marque pas l'essai, c'est ça?
Marque un essai.
C'est le problème que j'ai eu avec tous ces dispositifs qui n'aboutissent pas, avec des. voilà, c'était vraiment mon gros problème dans cette expo. Il y a peut-être deux petites choses, moi, que je sauverais.
Allez, sauvez, maintenant.
Pardon, c'est la série de photos, ça ne vous étonnera pas, de Lydie Jean Dipanel, qui s'allonge nue dans des lieux qui sont aux abords des centrales nucléaires. Voilà, je vois que Corinne, alors là, pour elle, c'était la rencontre de rien.
Je n'ai rien dit.
Zanele Mioli, la photographe sud-africaine, dont je trouve les portraits, je trouve que plus ça va, plus son travail gagne en profondeur. j'ai peur là.
Non, mais Corinne à côté de moi, tout va bien, on vous écoute et on retient.
Il fait très chaud dans le studio.
Oui.
Voilà.
Voilà. Pour une fois qu'il fait chaud. Mais c'est à peu près tout, vous voyez. Si vous prenez par exemple les socs de Steve Cohen.
Steve Cohen, de toute façon, c'est quand même c'est compliqué, Steve Cohen.
Vous l'avez vu, celui-là, qui met ses photos dans le journal?
Non.
Non, et le couple, Émilie et Maxime, on va laisser
Yasmine dérouler sa liste pendant que Sally Boone va peut-être nous sauver elle aussi une heure.
Alors, Cécile Paris, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé que l'agenda était Paris
comme la ville.
Un petit objet. Paris, d'accord.
Elle s'appelle souvent comme ça, Cécile Paris, comme la ville.
L'agenda, je trouve que c'est un objet assez singulier aussi dans cette profusion d'images de soi,
là, c'est une espèce de
travail de retrait. Par contre, le Ghost of Your Souvenir, qui était les images prises par Émilie Brout et Maxime Marion, où ils s'inscrivent sur des lieux hyper touristiques. Et en fait, il y a tout ce système où ils vont essayer de rechercher les images sur Internet. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a une petite installation de dessins de Antoinette ou à Nessian, ah, sur les limites de, voilà, ouais, sur les limites de ma conscience, qui sont absolument magnifiques. Et dans la dimension un peu parodique, parce qu'il y a aussi ce jeu-là, l'autofiction, la parodie, la dérision, l'autodérision, les biographèmes d'Hubert Renard, qui est en fait une espèce de construction d'artiste qui, où il s'invente une vie d'artiste et où aucune production n'est réalisée, si ce n'est le récit, en fait, de cette vie d'artiste. Donc voilà, j'ai peut-être pas fini la liste des choses que je sauverais, mais il y en avait quand même quelques-unes qui sont intéressantes.
Allez voir par vous-même, Ligne de vie, une exposition de légende, c'est jusqu'au 24 août au Macval. À suivre dans la dispute, nous allons aller à l'Institut des cultures d'islam, au Bâle et à Venise. Alors, Yasmine aussi revient après quelques semaines hein, où elle était absente, donc elle pose des questions. Voilà, y compris quand le micro s'ouvre. Yasmine aussi, nous poursuivons cette dispute, si vous le voulez bien, avec C'est Beyrouth. À voir jusqu'au 28 juillet à l'Institut des cultures d'islam, dont la commissaire est Samuel Ressoub. Là, ce sont 16 artistes, photographes, vidéastes qui documentent l'actualité de Beyrouth. Il s'agit pour le commissaire de montrer l'omniprésence, je le cite là encore, de la religion, des conditions de vie des réfugiés palestiniens et syriens, comme celle des travailleurs migrants, les discriminations en raison de l'homosexualité, les échappatoires d'une génération désorientée. Vaste programme, le sociétal est donc mis en avant, en tout cas dans la communication de l'exposition. Il s'agit évidemment d'une exposition artistique. On va quand même interroger cette tension, mais premier tour de table, là rapide encore, pour résumer vos impressions sur cette exposition, Yasmine Yossi.
À moi, elle m'a bluffée parce que je trouve qu'elle donne une image au plus juste de la ville.
Ça, elle est bonne.
Une exposition entre art et documentaire, hein, qui je sais pas situer en fait ces œuvres-là.
Corinne Rondeau.
Un petit voyage sympathique.
Oui, avec un peu plus de volume la prochaine fois.
Un petit voyage sympathique.
Mais pas trop non plus. Hein. Vous n'êtes pas sympathique hein, avec nos chefs et chefs opératrices du son. Yasmine, et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, le parcours de cette exposition.
Alors, c'est une exposition qui est présentée sur deux sites. Les deux sites de l'Institut des cultures d'islam à Paris. Il y en a un qui est rue Stephenson, l'autre rue du Léon. Deux sites assez ingrats hein, pour ce qui est de l'accrochage. Mais je trouve que Sabil Roussoub, le commissaire de l'exposition, en a tiré le meilleur parti. Construisant des alcôves pour ne pas que les œuvres se phagocytent. Exploitant aussi des lieux qui habituellement ne sont pas exploités, comme le hammam. Parce que là, justement, il est en travaux. Il y a installé il y a mis l'installation de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jureij. Et tout ça est construit un peu comme un kaléidoscope qui a l'image de cette ville. Beyrouth est une ville unique au monde. Je ne sais pas si vous y avez déjà été.
Hélas.
Pour avoir grandi dans le monde arabe, c'est vraiment une ville à nul autre pareil dans le monde arabe. Il y a quand même 18 communautés qui cohabitent, 18 communautés religieuses. Donc on pense que la religion est omniprésente. Elle l'est, mais c'est vraiment pour moi la seule ville du monde arabe où on vous laisse être qui vous êtes.
Ça dépend des moments quand même dans l'histoire récente
justement.
De ce pays. Mais bon, on y reviendra.
On y reviendra.
Et on va se plonger dans l'ambiance de l'exposition avec les bandes sonores de deux des vidéos de l'exposition, celle de Fouanel Khoury et celle de Serine Fatou.
Jeudi 13 juillet 2006, c'est la guerre. Hier, je suis rentré d'une soirée où chacun de nous se demandait quelle serait la réaction d'Israël face à l'enlèvement de deux de ses soldats. Aucun de nous n'avait envisagé le bombardement de l'aéroport, surtout pas moi, qui devais me rendre à Athènes inaugurer une expo photo à moi au Musée d'Art Contemporain. Coïncidence, l'expo est intitulée 1982, date de la dernière invasion israélienne du Liban. L'électricité est coupée, les avions ronflent en permanence dans le ciel et gèrent dans la maison sans trop savoir quoi faire. Le téléphone fonctionne toujours, mais pour combien de temps ?
Ça y est, on y est. On est à Beyrouth, grâce à cette exposition. Sally Bone, alors, premier sentiment sur cette exposition. Vous parliez, vous aussi, hein, ce qui vous a retenu dans un premier temps, comme je le disais en ouverture, c'est cette peut-être tension entre art, document.
Oui, alors une tension, c'est pas une tension forcément négative, hein. C'est-à-dire qu'on a une sorte de le portrait, et ce que montre l'ensemble de cette exposition, c'est comment on peut faire le portrait d'une ville d'abord, d'une part, mais aussi comment on peut faire le portrait d'une ville blessée, et comment aussi, puisque c'est ça qui est montré, comment vivre ensemble. Puisque Yasmine l'évoquait, il y a quand même 18 communautés religieuses, et au fond, à travers ces photographies et ces films, ce qui nous est montré, c'est cette capacité à vivre ou pas d'ailleurs ensemble, parce que ce qui semble quand même se dégager, c'est qu'au fond, ils ne vivent pas tellement ensemble. C'est-à-dire qu'ils coexistent dans un même espace. Et que cette répartition dans l'espace de l'exposition montre assez bien ça. C'est-à-dire qu'on est, on va voir effectivement les chrétiens, on va voir, on vient d'entendre là cet homme qui passe dans la rue la nuit. Et qui c'est pour le réveil avant le lever du jour. Donc
pendant le Ramadan, le dernier repas avant la levée du jour.
Et on est confronté comme ça à des situations qui sont des situations éclatées dans le temps et dans l'espace et qui semblent se rencontrer difficilement. Et c'est un assez beau portrait en fait, un peu éclaté comme ça, un peu singulier. Il y a quand même une espèce de pas tellement de tension, mais une charge un peu dramatique ou tragique qui traverse quand même l'ensemble des œuvres. Le premier film qui ouvre l'exposition, qui est celui de Fouad El Khoury, qui est magnifique, hein, qui est vraiment un très très beau film. On a entendu là tout à l'heure ce début, qui est une sorte de journal intime avec des photographies, des morceaux de films et le récit au jour le jour de la guerre des 33 jours de 2006, et qui est extrêmement touchant et en fait qui d'emblée je charge un peu l'ensemble de l'exposition, puisque au fond on reste dans cette présence de la guerre.
Oui, je pense que effectivement, si on fait une exposition sur Beyrouth, on ne peut pas faire cette économie-là. Je pense, voilà, ça fait quand même bientôt 50 ans que la guerre est très présente dans les vies des habitants de Beyrouth.
Oui, elle est totalement intégrée dans la vie des gens. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la guerre, alors là, on vit à Beyrouth,
pendant la guerre. Une ville très particulière. Corinne Rondeau regarde cette exposition.
Oui, je rejoins le point de vue de Sally Bone, parce que je trouve qu'il y a... Moi, j'ai eu la sensation que cette ville était la plus occidentale de tout le Moyen-Orient, à cause de, justement, tout ce qu'on peut retrouver chez nous, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des communautés, mais des gens qui vivent aussi un autre désir à côté du désir de l'autre. L'homosexualité est liée, les nuits de Beyrouth, mais aussi la guerre, enfin je veux dire on n'est pas dans la guerre, mais l'histoire d'amour, puisque Fouad El Khoury, c'est une histoire de la guerre à l'intérieur d'une histoire amoureuse qui finit, et comment on se raccroche dans un où tout se délite, hein. Donc le film a un côté durassien, hein, dans sa mise en forme, on pourrait dire, avec une discrépance, puisqu'il y a une voix off derrière, comme ça, et puis des images qu'il aura récupérées. Donc et d'ailleurs je crois que ça a été produit pour vraiment l'exposition. Ah oui. Il me semble, hein, 2019. Et d'ailleurs, c'est une belle introduction, je trouve, à l'exposition. Faut pas la rater, faut tout de suite y aller, parce que ça nous rappelle qu'on va quand même voir des choses qui sont à Beyrouth, c'est-à-dire un lieu où la destruction, elle est là depuis les années 90, 2006, puis enfin le nombre de fois où
il y a 70. Eu des...
Oui, 70, mais enfin, depuis que moi je suis née, quoi, on va dire.
En 90.
Et ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est bien. Et puis, il y a un contraste immédiat entre cette salle de projection et la salle de photographie. D'un côté, on a celles qui sont pas forcément très, on s'en souvient peu, de Motard, de Ziad Antar, où vous avez des motards qui posent à côté, des policiers qui posent à côté de leur Harley Davidson. Donc, c'est une sorte d'étrangeté, c'est-à-dire c'est un côté l'Ouest et au Moyen-Orient. hein. Et puis c'est le rapport au pouvoir, semble-t-il. Bon, je trouve pas ça extraordinairement intelligent en termes de production plastique, mais je trouve que c'est le point où justement quelque chose d'un ailleurs est aussi là. Et à côté, vous avez toute une série de musulmans qui sont au bord de la plage, qui est photographiée à la Martine Parr, qui sont à la limite de la vulgarité et du comique, mais qui finalement disent aussi des choses sous ces hommes réunis. Alors c'est Vianney Le Caire, ces hommes en maillot de bain où il n'y a pas une femme qui est là, avec ce bleu, cet horizon, la mer. Donc vous avez le territoire, vous avez là, vous avez les hommes, vous avez l'islam, vous avez aussi cette histoire d'amour avec une femme qui est au Caire, mais en Turquie. En fait, vous avez tout un réseau de territoires qui se joue déjà dans les deux premières salles. Et puis tout de suite après, dans le premier bâtiment, il y a la question de la religion entre les chiites qui se font tatouer les visages des prophètes ou des
du chef des chiites,
donc c'est ceux
des prophètes ou de Nasrallah, ouais.
Là, et puis les chrétiens. Et ça, d'un coup, c'est justement là encore ces bipolarités qui se jouent et qui fait que quand même les gens vivent, ils ne se parlent pas, mais ils sont pas schizophrènes non plus. Donc c'est ça qui est très étrange par rapport à cette ville dont on a envie après l'exposition d'y aller. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir pas raté des choses.
Yasmine aussi.
Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette déambulation au cœur de Beyrouth, et puis vraiment avec tous les aspects possibles et imaginables de Beyrouth, de nuit, de jour, auprès de toutes les communautés, auprès des réfugiés. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est d'abord la variété des écritures visuelles qui sont proposées, les vidéos, et c'est vrai que alors la vidéo de Fouad El Khoury est absolument exceptionnelle pour ça. Et puis les récits, en fait, les histoires qui sont racontées dans ces œuvres, et ce sont toujours des récits qu'on n'attend pas. Par exemple, il y a ce travail de Myriam, je crois que c'est Myriam Boulos, oui. sur les domestiques. C'est un problème, c'est un vrai problème, hein, le problème des domestiques à Beyrouth. Et là, parce que dès qu'elles arrivent, on leur prend leur passeport, et elles ont réussi à obtenir, après des années de lutte, de pouvoir avoir leur dimanche. Et donc là, Myriam Boulos photographie ces femmes, parce que beaucoup sont des femmes, des Philippines, thaïlandaises, justement leur seul jour de congé. Pour ce qui est la série de il y a aussi toute cette série de dont vous parliez, Corinne, sur les tatouages. Je crois que c'est Hassan Anouar, hein, je crois que c'est lui qui les a voilà, sur les tatouages, cette manière de parler du chiisme à travers les tatouages. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis
c'est
venant d'un pays venant d'un pays sunnite, on va pas, le Maroc, on va pas s'amuser à tatouer la tête du prophète, dont on n'a jamais imaginé, on même pas ça savoir fait. La tête qu'il a, quoi.
Non,
voilà,
c'est des chiites.
Oui, c'est forcément des chiites, et donc c'est le prophète Ali qui vont tatouer.
Voilà, c'est terrible, ce sont, hein, cette série est terrible,
elle est terrible,
moi je suis sortie, j'étais effrayée.
Et alors on me racontait qu'en fait ces tatouages finalement séduisent beaucoup les filles.
Ah bon,
c'est bon,
en fait, oui,
mais on a
des miliciens, mais quand même. C'est beaucoup pour les filles qui
ils racontent ça, effectivement, que ça plaît beaucoup, qu'ils ont des numéros de téléphone en montrant leur tatouage, qu'ils obtiennent le numéro de téléphone de certaines filles en montrant leur tatouage.
Ah non, mais c'est... Et puis il y a cette vidéo quand même de Jorej, Hadji Thomas et Khalil Jorej, qui est magnifique, sur les réfugiés, et qui raconte, parce que quand nous on met beaucoup de, enfin, quand pour nous en France c'est très difficile d'accueillir 30 personnes, 30 réfugiés syriens, ils sont quand même plusieurs millions au Liban, ouais. Et le Liban s'en occupe et porte ça à bout de bras. Il y a un ensemble
avec des couvre-feux pour les travailleurs syriens. Enfin bon, c'est quand même.
Enfin,
mais c'est contrasté.
Ils ont pu. Mais ils ont pu au moins
là
partir
encore,
de. Non, je vous en prie. Mais voilà, il y a une. La dernière vidéo, c'est un réfugié qui est face caméra et qui ne parle pas. Et c'est l'une des vidéos les plus fortes que j'ai vues.
Corinne Rondeau.
Oui, et juste la vidéo de Roy Dibb, mondial. Que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment le diptyque avec le premier film. Et c'est une caméra où on ne voit quasiment personne, mais on les entend parler, ce sont des homosexuels qui vont jusqu'à Ramallah. Et il y a une tension à la fin du film où ils partent de nuit en disant « je peux pas », on a l'impression que la ville disparaît. Et c'est très fort parce qu'on ne sait pas ce qui les menace. Et je trouve que c'était très bien parce que c'est une manière de parler de la guerre qui a lieu à Beyrouth. Et cette manière de dire le Liban, c'est aussi Ramallah. Même si c'est pas le Liban, Ramallah. Mais d'un coup, on sent la géopolitique à cet endroit, et à cet endroit où ceux qui font le film ne se montrent pas. Mais c'est aussi des corps derrière des caméras. Je trouve ça assez beau.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de vidéos aussi. Hein. On n'a pas parlé de celle de Christophe Donner, qui est une espèce de récit un peu familial, un peu amoureux, avec un artiste qui va montrer comment, en fait, les réfugiés palestiniens vivent dans des camps dans Beyrouth. Donc il y a des choses comme ça. Et ce qui m'a et alors pour revenir sur l'installation de Johanna Hajim Thomas et Khalil Jorej, c'est dans le hammam et c'est magnifique en fait. On est là, la situation dans laquelle on voit ces vidéos, elle est elle-même aussi très très prégnante. Et puis peut-être pour finir, simplement dire que cette espèce de portrait en creux de la ville où on voit en fait très peu la ville et où finalement parler d'une ville c'est justement uniquement parler de, enfin pas uniquement, mais parler de ceux qui l'habitent, la rêvent, la traversent, la parcourent, ils souffrent aussi et finalement c'est les individus dans leur pluralité qui sont les habitants de la ville, enfin qui font la ville quoi.
Vous avez compris qu'il faut aller voir cette exposition C'est Beyrouth. On a jusqu'au 28 juillet à l'Institut des cultures de l'islam, qui est un catalogue qui a été édité pour l'occasion. Vous le recommandez aussi, Corinne Rondeau? Non, mais vous me faisiez un signe, ce n'était pas pour parler du catalogue, mais non.
Non, c'est... Oui, non, non, mais ça donne une bonne mémoire de...
De l'exposition. Oui. C'est l'heure du coup de cœur, le coup de cœur pour Yasmine Youssi. Voilà, c'est le mien. Le coup de cœur pour Yasmine Youssi. Yasmine Youssi, elle a un coup de cœur.
Mais pour vous ?
Ah bon ? Non, mais on en reparlera après. Vous étiez à Venise, comme c'est original, pour l'ouverture de la Biennale d'art plastique à laquelle nous consacrerons une dispute dans 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, enfin début juin. Vous êtes revenu avec un coup de cœur, parce qu'on m'a demandé.
Vous m'avez demandé un seul coup de cœur. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette Biennale, enfin pour les expositions internationales. Pour les pavillons moins, j'en retiendrai 2, mais je ne vous parlerai aujourd'hui que d'un. Bien sûr, le pavillon français, Laure Prouveau a fait quelque chose de magnifique, vraiment magnifique sur le vivre ensemble, et vous en parlerez plus longuement
début juin
pour l'émission qui y sera consacrée. Moi, j'ai eu aussi un coup de cœur en parallèle de celui-là pour le pavillon du Ghana qui expose le Ghana étant le premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir eu son indépendance en 57, et pour la première fois il expose à Venise, il expose un pavillon puisque tous les pays ont compris l'importance aujourd'hui d'avoir une représentation dans ce type de manifestation. Et ils ont pris le parti non pas de présenter un artiste, mais de présenter 4 artistes et de confier la scénographie du lieu à un très très grand architecte qui est David Adjaye. Je crois, oui. J'ai son nom dans l'une
sur
de mes fiches. Voilà, Adjaye. Qui a mis en espace des murs couleur terre, tout en rondeur, un peu comme si on était dans une case, mais c'est pas du tout exotique ou folklorique. C'est tout sauf ça. Et puis, le choix des artistes, moi, m'a beaucoup plu, parce qu'il y a un véritable équilibre entre les disciplines. Vous avez de la peinture, de la photo, des installations, des vidéos. Vous avez toutes les générations. Vous avez Ella Natsui, que peut-être vous avez vu pour ces tentures qu'il réalise, ces immenses tentures qu'il réalise avec des capsules de soda qui sont des aplats de couleurs. En général, là, il y a une qui est d'un jaune aveuglant qui est magnifique. Des artistes plus jeunes comme Linette Yadom-Boakier qu'on commence à découvrir. On l'avait vu là, qui est peintre et qu'on avait vu l'année dernière dans la collection Pinault. Ah, moi, je l'ai découverte à la collection Pinault qui avait été présentée à Rennes l'année dernière. Et
qui fait des tableaux absolument magnifiques d'hommes et de femmes noires. Et on réalise, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est complètement aspiré, attiré par ces tableaux. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes qui sortent de son imagination ne sont pas peints pour leur couleur de peau ou pour... c'est pas, juste parce que ce sont des êtres comme les autres. Il n'y a pas tant de tableaux que ça de la communauté noire. Voilà. Et puis, on y fait une découverte absolument fabuleuse de la première femme photographe professionnelle du Ghana, Félicia Abane, dont alors j'ai beaucoup cherché, mais j'ai trouvé très peu d'informations sur elle. Elle serait née en 1935, je crois qu'elle vit toujours, et elle est vraiment entre Seydou Keïta et Malik Sidi Bé, qui sont ses homologues maliens, qui font de la photographie de studio. Et donc elle a fait ces photos-là, des photos en noir et blanc qu'elle a prises dans les années 60-70 de femmes. Et il n'y a que des femmes. Alors elles, quand elles viennent poser, on est encore, c'est pour ça que je la rapproche plus de Seydou Keïta pour ça, parce que elles posent encore dans les habits traditionnels. Le seul élément de la qui viennent d'Occident, c'est le sac à main. Et puis il y a toute une série de portraits, donc elle les magnifie, vraiment très belles, très dignes, très... mais elle ne sourit pas, elle représente vraiment quelque chose. Et puis il y a ses autoportraits à elle où elle se met en scène soit dans des habits et là elle est plus proche du travail que fait Malik Sidi Bé, c'est beaucoup moins installé. Des fois elle se met de trois quarts de dos. C'était une très très belle découverte.
Alors question pratique, Yasmine aussi, il est caché où ce pavillon du Ghana?
Il est à l'Arsenal.
C'est parce qu'il y a des pavillons nationaux.
Mais il faut vraiment, moi qui pensais avoir tout fait, par exemple, c'est tellement celui qui a eu le Lion d'Or, qui était à l'Arsenal, et pourtant j'ai eu l'impression d'avoir fait l'Arsenal en long, en large et en travers, je ne l'ai pas vu.
La Lituanie, c'est ça?
Oui, voilà.
Eh bien, nous en parlerons. Ça doit être le 5 juin, précisément. Merci, Yasmine aussi.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
La dernière exposition à notre sommaire, Barbara Probst, The Moment in Space. À voir jusqu'au 25 août au Bâle. Les commissaires en sont Diane Dufour et Frédéric Paul. Il s'agit de la première exposition de la photographe allemande à Paris. Alors le fait qu'elle est... étudier la sculpture à l'Académie des Arts des Beaux-Arts de Munich n'est pas indifférent à son travail photographique, puisqu'elle parle régulièrement de ces journées où les modèles vivants se tournaient petit à petit pour que chaque élève puisse avoir les différents axes face à lui, voir tous les angles possibles, on va dire, pour essayer de résumer un petit peu et donner une idée de son travail. Elle place donc plusieurs appareils photo autour d'un même sujet, plus ou moins près, en variant les angles, et elle prend donc plusieurs prises de vue au même instant. Donc toute son œuvre est forcément une série, au moins deux, puis 4, 6, etc. Offrant, et on va en parler, une expérience très singulière au regardeur. Impression générale sur cette exposition, avant d'en parler davantage, Sally Bonne?
Une très belle exposition, intelligente et précise, qui questionne le réel.
Corinne Rondeau?
Bien.
Et Yasmine Youssi?
Pour moi, c'est une exposition vertigineuse.
Sally Bonne qui a adoré cette musique. C'est quoi le parcours de l'exposition? On sait qu'au Bâle, il y a un rez-de-chaussée, puis il y a un sous-sol. Comment les choses sont-elles présentées?
Alors, il y a d'abord dans la première salle, d'abord les salles sont très blanches, hein, ce qui permet de magnifier ces séries.
qui sont sous forme de diptyque, triptyque, polyptyque. On rentre dans la première salle et on a trois séries de trois périodes différentes parce qu'en fait, elle a commencé ce qu'elle appelle des exposures, qui est le terme qu'elle utilise et qui est sur lequel on pourrait revenir parce qu'il est assez intéressant, c'est-à-dire ce qu'il signifie en termes de pause, mise au point et aussi questionne aussi l'idée du risque. Donc on pourra y revenir. Donc ces exposures qui sont en fait ce dispositif que vous avez expliqué, hein. Elle démarre en 2000 avec une première série qui est la première exposeuse et qui est en fait une on la voit elle-même, c'est l'artiste qui bondit sur un toit terrasse de New York de nuit et on voit, puisqu'on a 12 images, les 12 prises des appareils photographiques qu'elle a placées dans l'espace. Donc il y en a un au sol, par exemple, un au niveau de son visage, un qui est pris en surplomb sur un autre toit terrasse. Donc on la voit d'en haut, puis d'en bas, etc. On la voit un peu de partout et on comprend immédiatement comment ça fonctionne. Donc c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. On n'est pas en essayant de comprendre comment ça marche, puisqu'on sait d'emblée comment ça marche, d'autant plus que l'appareil photographique apparaît souvent dans les images, surtout quand il y a beaucoup. Non, parce que pas forcément.
Oui, justement, c'est vrai, vous avez
mais il apparaît. J'ai il apparaît. Dit. Et donc, on a cette première série très importante, puis deux autres, une de 2009 et une de 2013, qui montrent aussi comment fonctionne ce processus, qui n'est pas un procédé, puisque à chaque sujet, et la question du sujet, elle est absolument essentielle, à chaque sujet, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Évidemment, puisqu'il s'agit d'interroger le réel par une multiplicité de points de vue et d'angles de vue, on a, par exemple, dans cette première salle, une scène avec on voit un camion, on voit une femme à la fenêtre, on voit une pomme, on voit des papiers sur une table. Tout ça, c'est le même moment, tout ça, c'est le même instant, et en fait, on tourne autour de ces situations-là, et on rentre dans un récit et dans une multiplicité de récits parallèles. Donc on a les trois pièces en haut, en bas on a une autre série de polyptiques, de diptyques, de triptyques et de polyptiques, et deux petites pièces dans lesquelles on a des séries plus récentes, trois natures mortes qui datent de l'année dernière, de 2018, et une autre avec deux œuvres, dont une très très singulière sur laquelle il faudra revenir, avec quatre images d'une même situation et qui est très déroutante parce que tout d'un coup on est dans une multiplicité de points de vue incroyable.
Alors c'était description plus commentaire, hein,
oui,
Sally
oui.
Bonne. Vous avez triché, donc je ne sais pas si la parole reviendra vers vous. Non, je ne sais pas si on en aura le temps. C'est pour ça que je vous ai des petits signes. Corinne Rondeau.
Oui, non, c'est assez formidable. Mon caractère obsessionnel a surgi dans cette exposition, parce que c'est quand même aussi sur la question des points de vue qui est en jeu. Et donc, avec tout ce que vous avez décrit, je ne vais pas leur revenir, mais c'est effectivement comment on reconfigure de l'image à travers de l'espace, parce qu'on sent l'espace. Et ce qui est certain, c'est qu'elle nous donne à vivre l'avènement d'un événement vide. Parce que ce qui compte, c'est quand même comment cette femme qui fait du diptyque, du triptyque ou du polyptyque pense aussi à grâce au point de vue, c'est-à-dire là où elle place son appareil photo, et qui se déclenche au même moment, comment elle pense finalement à créer à partir de l'ellipse et à partir de l'interruption. Donc ce que je trouve absolument admirable, c'est qu'elle n'est ni dans le cinéma, ni dans le documentaire, mais elle est dans comment produire un séquençage simultané de l'image qui doit nous faire sentir l'espace dans lequel se joue un événement banal. Un homme qui traverse un carrefour, et en fait, ces quatre photos, il est au carré d'un carrefour, il est au milieu, il marche, clac, 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 il est à New York, dans le Brooklyn, mais en fait, il pourrait être quatre fois à quatre endroits. Et d'un coup, c'est vraiment comment le lieu est dans son propre dépassement. Et comment, effectivement, un temps donne plusieurs lieux. Et donc, c'est cette manière de rentrer même dans l'utopie. Je veux dire, un lieu sans lieu, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement cette manière de jouer sur l'interruption de la continuité spatiale et du continuum naturel de la vision pour justement nous mettre les yeux sur un rapport à l'image qui me paraît considérable et sur lequel on n'a pas toujours l'œil dessus, c'est la distance. En fait, elle nous dit, voir, c'est d'abord mesurer des distances. Et regarder, c'est regarder un événement. Et son événement, c'est un événement du vide. Mais le vide, c'est pas rien. Le vide, c'est il y a un objet, et c'est l'espace. Et il y a un sujet,
Bah, c'est celui qui fait la photo. C'est-à-dire celui qui place des points de vue, qui modifie sans arrêt l'espace. Donc, quand on pense qu'il y a du récit, par exemple, je suis d'accord, c'est cette nature morte à la fin dans cette petite salle est juste sublimissime, à tomber par terre. C'est presque du Hitchcock, mais c'est pas du Hitchcock.
J'ai trois
images. C'est une manière de nous dire, il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration, mais il y a un récit. Et c'est le récit du regard par rapport à la vision. Et je trouve ça d'une intelligence de dingue.
Yasmine Yossi, le vertige vous a pris.
Le vertige m'a pris à pour plusieurs raisons. D'abord pour quelqu'un qui a une passion pour la photo comme moi, c'est toutes les questions que ça pose et que dont vient de parler Corinne.
Mais je peux poser une question bête d'ailleurs à la spécialiste de photo que vous êtes. Mais en découvrant Barbara Prost, je me suis dit mais personne n'avait eu cette idée-là avant elle.
Dans l'histoire de la photo, moi, je n'en connais pas.
Et alors, quand on le voit, on se dit, mais c'est génial. Et généralement, les idées de génie, ça n'arrive pas tous les 4 matins.
Sinon, il y avait Sol Lewitt avec Dance, avec Lucina Chase.
Oui, mais c'est une autre forme de proposition.
Mais ça m'y a fait penser, vous n'imaginez pas.
Je comprends, Corinne, évidemment.
Oui, non, l'histoire de la photo, moi, ça ne me dit vraiment rien du tout.
Et puis, ça remet...
Oui, en même temps, c'est une idée qui remet...
Une élaboration extrêmement complexe.
Une élaboration qui remet... Comme vous dites.
Pardon, je vous interromps avec ma question bête. Allez.
Non, elle est pas bête, parce que elle remet, si vous voulez, cette expo, elle remet en cause une idée fondamentale de la photo pendant une grande partie du XXe siècle. C'est l'idée de l'instant décisif. L'instant décisif, tout d'un coup, il n'existe plus. Il y a autant d'instants là pour un même événement. Il y a autant d'instants décisifs qu'il y a d'angles différents. Or, l'instant décisif qui est cher à Cartier-Bresson, c'est l'idée que on va immortaliser le moment où le fond se combine à la forme et tout d'un coup, ça devient quelque chose d'exceptionnel. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est cette photo très connue de Cartier-Bresson du passant qui enjambe une flaque au-dessus de la gare. Voilà, ça c'est ça. Et là, vous vous retrouvez avec plein d'instants décisifs d'un même événement. Et ça remet...
Et là, c'est vertigineux pour vous.
C'est vertigineux. Ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment elle nous transforme en enquêteurs. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on n'est absolument pas passif. On est complètement immergé dans ces photos.
On n'en croit pas nos yeux.
Voilà.
C'est ça ce qu'il faut dire.
Et donc, on se met à chercher, mais où sont posés les trépieds?
Est-ce vraiment le même moment?
Mais voilà, la photo dont on parlait à l'instant... Corinne sur Brooklyn. Où on n'arrive pas, on se dit, mais on n'arrive pas à identifier, déjà on n'arrive pas à l'identifier, on se dit c'est 4 lieux différents, et puis où sont les trépieds là-dedans? Alors moi je voyais tous les gens qui étaient là, qui cherchaient les trépieds, il y en a un qu'on n'a pas réussi à trouver. Il y a autant de photos que d'histoires, que d'ambiances. Il y a toute cette série, par exemple, qui a été réalisée à Grand Central, la gare de New York en 2001. Il y a une photo qui donne l'impression qu'on est dans un film noir. C'est la même scène. C'est le même moment. C'est l'instant T. Il y a une image qui donne l'impression qu'on est dans un film noir. Une autre qui donne l'impression qu'on l'a prise d'un film de vidéosurveillance. Une autre, on a l'impression d'être sur une scène de théâtre avec les pas comme ça, parce que c'est les pas. Et puis, c'est dingue. Et puis moi, ce qui m'a fascinée, c'est que si vous regardez à part la première série avec la pomme et puis la série des natures mortes en bas, si vous regardez les photos en elles-mêmes, elles n'ont rien d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'elles s'inscrivent totalement dans l'histoire de la photo de ces 20 dernières années, des années 80 à nos jours, quoi. Ce sont un peu dans l'école, ce qu'on appelle l'école de Düsseldorf, c'est-à-dire c'est l'école allemande. Mais là, c'est clinique. Et c'est le dispositif. Alors là, pour le coup, c'est le dispositif.
C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure aussi.
Ouais,
mais bon,
qui fait toute la
Corinne
force.
Rondeau.
Non, juste deux choses. La première, c'est une photographie non fétichiste. Hein, et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien dans l'unité. Et ça envoie la multiplicité. Et surtout l'accrochage.
Oui.
Parce que 4 photos d'angle, on nous l'aurait mis dans un cube. Laissez-moi rigoler. Mais quand vous avez des lignes et que vous avez des superpositions de lignes, bon, là, on se moque pas de nous. Voici tout ce que je voulais dire.
Bien, non, parce ça, qu'elle,
elle travaille beaucoup sur la, il y a des maquettes qui sont d'ailleurs dans le catalogue qui est magnifique. On voit comment elle procède, les maquettes, les petites figurines qui lui servent justement à construire ce dispositif et qui sont très justes. Simplement, peut-être pour finir, la question qui me semble aussi à l'œuvre dans cette exposition, c'est la question de la vérité des faits, puisque on est constamment soumis à l'idée qu'il n'y a pas de, il y a autant de vérité que d'images. On se dit aussi d'abord qu'elle fait nécessairement un choix, puisqu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Donc il y a aussi un travail de montage, ce travail de montage en vue d'un récit, mais pas d'un récit au sens d'une narration, mais d'une multiplicité de récits qui reste toujours ouvert, bien que suspendu dans le temps par l'ensemble des images. Et enfin, la question du sujet, puisque au fond, le sujet qui est représenté, à un moment donné, il se disperse aussi dans une multiplicité de détails qui est proposé en fait au regard dès qu'on ouvre, que le regard s'ouvre à partir du sujet lui-même.
On aurait pu la voir dans Ligne de vie, Barbara Probst. Ça aurait été une autre façon de parler d'identité. Mais là, on peut la voir au bal jusqu'au 25 août pour cette exposition de Moment in Space, ce moment donc en apesanteur, cette première photo à New York sur le toit. Catalogue coédité par le bal et Hartmann. Avant de conclure cette émission et de poursuivre le débat en dehors, le jeu de la dispute, Joséphine Dumoulin nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question d'hier soir et nous donner sa réponse.
Dans quelle trilogie documentaire Ryusuke Hamaguchi filme-t-il les ravages causés par le tsunami de 2011 au Japon? Et la réponse était la trilogie documentaire de Tohoku.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour aller voir le film Divorce à l'italienne de Pietro Germi, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario 63, qui est ressorti en salle, version restaurée. Quelle est la question, Joséphine?
Dans Divorce à l'italienne, quel film italien le personnage incarné par Marcello Mastroianni va-t-il voir au cinéma?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucine Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son Morgane Danan, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, on se retrouve à 19h pour une dispute bande dessinée. Je serai en compagnie de Catherine Robin, Sonia Deschamps et Victor Massé de l'Épinay. Nous parlerons des nouveaux albums de John Harris, Dunning, Michael Kennedy, de Frank Miller, Deluse. Et il y aura un coup de cœur pour le nouvel album de Jean-Marc Rochette.